Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le mercredi 15 mars 2023. Il fait beau dans le Beaujolais avec des températures autour de 11-12 degrés et du soleil toute la journée. Dans notre émission, on va parler nutrition avec notre diététicienne Charline Simian. Et puis on va retrouver avant la fin de l'heure le prof Patrick pour nous parler économie et société. Mais d'abord, on va s'intéresser à notre invité du jour. C'est Emmanuel Gauthier qui va nous parler aujourd'hui de son podcast de Chez les Fêlés. C'est nouveau, ça vient de sortir il y a quelques semaines. C'est une série bimensuelle écoutée sur différentes plateformes et dans laquelle eh bien, on rencontre des fêlés, c'est-à-dire des gens qui ont des fêlures au premier degré, ou pas d'ailleurs. Il y a 4 épisodes disponibles pour l'instant. On y parle de voix, de grandir, de famille, de vieillir ou encore d'amour. On y parle de la vie. Et on va donc pouvoir en discuter aujourd'hui avec Emmanuel Gauthier, savoir comment elle enregistre des confidences souvent personnelles, comment elle trouve ses histoires, comment elle trouve ses fêlés. On en parle dans quelques minutes. D'abord, on commence comme d'habitude l'émission en musique et on écoute Ben Mazué avec un morceau qui s'appelle « Gaffe aux autres ». Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
T'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autre raison pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème. Tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer,
je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Et j'ai pas toujours été de la partie, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Tu écris notre histoire et moi je fuis, je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne, car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qui reste à nous aimer,
je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux?
Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux?
Que nos caresses soient mes espoirs de tristesse, que nos ivresses soient le fruit de réjouissance, que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer.
Je veux que nos caresses en mêlée soient notre essence, que nos ivresses soient le fruit de réjouissance, que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer. Je veux que nos caresses en mêlée soient notre essence, que nos ivresses soient le fruit de réjouissance, que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer. Je veux que nos caresses en mêlée soient notre essence, que nos vivres soient le fruit de réjouissance, que la tendre soit toujours placée devant ce temps qui reste.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer,
je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer,
je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer,
je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
C'était Ben Mazué et Jérémy Frérot avec un morceau qui s'appelait donc Gaffe aux autres.
Ensemble sur Calade.
Allez, notre invité du jour, c'est Emmanuel Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir en studio.
Avec plaisir.
On va parler de votre podcast de Chez les Fêlés. Ça a commencé comment, l'idée de faire un podcast? Ça vous est venu comment?
Ça m'est venu la manière la plus improbable, à un moment où en fait j'avais presque totalement perdu l'usage de ma voix. J'avais vraiment un très gros problème de voix depuis un an et demi. Et ça m'est venu à un moment où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a raconté une histoire de dingue. Et je me suis dit, j'aimerais trop raconter ça. Et j'écoutais pas mal de podcasts, j'aimais beaucoup ça. Et je sais pas, je me suis dit, je vais faire entendre ma voix, je vais raconter d'une manière ou d'une autre cette histoire, en me disant que ça pourrait probablement être thérapeutique. Et ça, je pense, en partie était le cas.
Ouais. Ouais. Et vous en parlez d'ailleurs dans le podcast de votre perte de voix. On en reparlera peut-être un petit peu plus, mais du coup, vous avez eu l'envie de partager des histoires d'autres personnes ou
Moi, j'aime beaucoup dans la vie en général les gens pas totalement lisses, les gens qui ont un petit grain, les gens dont on pourrait dire il est frappé, il est dingue, il est spécial, il est étonnant, ou elle, il ou elle d'ailleurs. Et du coup, oui, en lien avec cette fêlure qui était la mienne à ce moment-là, j'ai eu envie de donner la parole à ce type de personne.
Ouais. Et est-ce que tout le monde, finalement, n'est pas un peu frappé quelque part ?
Oui, tout le monde est un peu fêlé, c'est vrai. On a tous une fêlure intime, je pense, plus ou moins forte. Là, c'est vrai que je m'adresse à des gens qui ont des vies particulièrement cabossées ou des liens particuliers à la fêlure au sens psychologique ou même psychopathologique du terme. Il y a des gens qui sont borderline, il y a des extravagants, il y a des... voilà.
Ouais. Et comment vous les trouvez, ces gens ? C'est vraiment quelque chose... là, il y a eu 3 épisodes qui sont sortis, plus le premier épisode d'introduction, on va dire. Il y a 3 histoires vraiment incroyables. C'est des choses, je trouve, on en rencontre peu, des personnes qui peuvent nous raconter des vécus comme ça dans une vie. Où est-ce que vous les rencontrez ? Où est-ce que vous les trouvez, ces personnes ?
Le sous-titre du podcast, c'est quand tu tends l'oreille, des histoires de fous, il y en a partout.
Ouais.
Et c'est un peu étrange de dire ça, mais c'est un peu comme ça que ça vient. C'est-à-dire que je tends l'oreille, et en réalité, ça fait des années que je tends l'oreille, parce que ces gens-là m'intéressent. Et du coup, je chope des bribes de choses que les gens disent, d'infos que les gens lâchent, des toutes petites choses auxquelles habituellement on prête pas attention. Sauf que moi, je vais poser une question, ou je vais m'en souvenir, et après coup, je vais recontacter cette personne en disant « Dis donc, t'as dit ça, ça ?» Tu peux me raconter, il y a quoi derrière ? Donc c'est souvent comme ça que je rencontre les gens. J'ai aussi fait appel à un ou deux proches de gens dont je connaissais l'histoire, que j'avais envie de raconter, parce que ce sont des histoires très fortes.
Ouais.
Et puis après, il y a aussi les gens qui ont été mes invités dans le podcast, ou des gens qui écoutent, qui me disent « Ah, mais faudrait trop que vous contactiez telle ou telle personne. » Voilà. Donc on m'amène aussi beaucoup d'histoires.
Ouais. D'accord. Et il faut réussir à les recueillir, ces histoires. Il y a des choses très, souvent très très personnelles. Comment ça se passe à un enregistrement de podcast ? Est-ce que l'histoire, on vous l'a déjà racontée avant que vous arriviez avec vos micros ? Ou c'est la première fois que vous l'entendez, vous avez votre micro ?
Non, je fais toujours ce que j'appelle une pré-interview pour connaître un peu les grandes lignes de l'histoire de la personne, qu'on se présente mutuellement, qu'on se connaisse un peu. Et ma règle d'or, c'est que je vais toujours à la rencontre des gens là où ils se trouvent. Donc je fais des voyages, j'étais à La Rochelle, j'étais à Paris, j'étais dans le sud, voilà, je vais dans des endroits très divers, dans une yourte, en Haute-Loire.
Ouais.
Voilà,
Pourquoi aller là où ils sont ?
Bah parce que je vais à l'endroit, je vais dans l'intime des gens, donc ça me paraît logique d'aller à l'endroit où ils vivent, en fait, pour voir l'endroit où ils vivent. Mais aussi pour être invité chez eux. C'est pas moi qui les invite chez moi. Mais c'est pas toujours facile. Hein. Là, je suis en train de... pas d'essayer de convaincre, mais de savoir si elle est d'accord ou pas, une femme qui a subi des violences conjugales, qui s'en est sortie, mais qui est encore à la fois très fragile et très apeurée, en fait, d'être reconnue et tout ça, qui m'a dit oui, puis qui finalement est pas très sûre. Enfin, voilà. C'est pas toujours gagné d'avance, en fait. Hein.
Ouais. Et les épisodes, ils font une trentaine de minutes à peu près. J'imagine que la discussion, l'enregistrement,
la discussion, j'ai parfois 2 heures d'enregistrement. J'essaye de pas le faire, hein, parce que c'est une trop grande galère au montage.
Ouais.
Et puis c'est un trop grand crève-cœur aussi. Mais oui, c'est une discussion. On n'entend pas ma voix d'ailleurs dans les podcasts.
Vous enlevez du podcast.
On n'entend pas mes questions, oui.
Ouais.
Oui, c'est vraiment le choix de donner vraiment toute la place à la parole, d'inviter aussi l'auditeur à plonger dans l'histoire. C'est comme si une personne lui racontait des confidences à l'oreille, en fait. C'est ça que je voulais trouver.
Ouais. Il y a de l'humour dans le montage, moi, je trouve. Il y a de l'humour. Il y a de la poésie. Et, en tout cas, le dernier épisode, le montage, le début, m'a beaucoup fait rire. C'est des personnes qui doivent avoir un tic de langage, je sais pas. Ils disent beaucoup très. Vous vous amusez avec le son et ce que les gens disent aussi, hein.
Oui, parce que c'est un peu le point commun entre tous les fêlés que je choisis. C'est tous des gens qui ont vécu des choses... souvent pas facile, mais qui toutes ont su traverser et surtout sont capables de faire un pas de côté, d'avoir un peu d'humour ou de recul. Et du coup, moi aussi, je veux dire, il ne s'agit pas de raconter des histoires totalement plombantes, d'être dans le pathos. Voilà, c'est pas mon truc. Donc effectivement, je m'autorise à avoir un peu d'humour ou quand l'humour n'est pas possible, parce que franchement, il y a certains sujets où c'est un peu plus compliqué. Dans le prochain épisode, je vais aborder... avec quelqu'un, la thématique de l'enfant perdu, de l'enfant mort pour une maman. Donc c'est pas un sujet forcément hyper simple. Ben dans ce cas-là, c'est la poésie qui s'invite avec une femme qui s'appelle Catherine Serre, qui est assez connue dans le coin parce qu'elle organise des événements autour de la poésie, qu'elle vient d'éditer un livre de poésie aussi. Et c'est avec elle que je choisis des textes. Elle a accepté de les lire dans le podcast. Voilà, donc effectivement, le pas de côté, ça me paraît indispensable quand on évoque des sujets profonds, intimes et parfois assez durs, quoi.
Ouais. Et c'est quelque chose qui est permis par le podcast et le format audio, en fait, de venir rajouter des sons assez facilement et créer un univers. Vous auriez pu raconter ce que vous racontez d'une autre manière, ou vous avez dit il faut que je le fasse par le son.
Ouais, le son, ça me paraît vraiment le média le plus adapté pour... parce que d'une part, c'est quelque chose qui est très intime, hein, ça s'écoute beaucoup au casque, le podcast. Donc ça s'écoute... ou dans l'habitacle d'une voiture, par exemple, dans un contexte où on a vraiment... on est tout seul avec le son. D'autre part, ça fait vraiment appel à l'imagination. Je fais, par exemple, exprès, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, mais envoie-moi une photo des deux derniers protagonistes là, de l'histoire, c'est un couple. » J'aimerais trop voir à quoi ils ressemblent. J'ai dit, mais d'une part, je m'interdis de le faire. Et d'autre part, non, ça casserait.
Ouais.
Je trouve que c'est bien d'imaginer à quoi ces gens ressemblent, où est-ce qu'ils vivent.
On a quelques infos. Ils parlent de cheveux longs à un moment ou de choses comme ça. Et on s'imagine les personnages. Moi, le dernier épisode, je l'ai écouté ce matin. Et ça m'a fait l'effet de, je sais pas, regarder un super film romantique hollywoodien, là où ils savent trop bien faire les plus belles histoires d'amour. J'ai fini le podcast, j'étais dans le même état que quand j'ai regardé une heure et demie de, je sais pas, Love Actually. Il est super cet épisode.
Ça fait, ça fait
un bien fou.
Oui, c'est ça, il y a des épisodes, si je parle de choses dures, mais il y a des épisodes beaucoup plus légers.
C'est super joyeux et optimiste comme épisode.
Parce que les fêlés sont parfois aussi très joyeux, très déconneurs, borderline, imaginatifs. Ouais. Voilà.
Et effectivement, l'audio permet de se raconter aussi sa propre histoire dans le... dans ce qui est dit, dans les voix. Et du coup, vous allez enregistrer les sons. Vous les ramenez chez vous, il y a le travail du montage, il y a quoi d'autre comme étape avant de le mettre en ligne ?
Effectivement, j'enregistre différents sons, j'enregistre aussi... Du coup, je passe un peu de temps avec les gens chez eux, ou à l'endroit où je les rencontre, mais souvent c'est chez eux. Du coup, je fais du son aussi dans la yourte là, dans laquelle j'ai enregistré le bruit du feu dans le poêle. J'ai enregistré un épisode aussi autour d'un... Enfin bon, bref, je ne veux pas spoiler les prochains épisodes, mais oui, il y a souvent du son d'ambiance.
Ouais.
Et puis après, c'est un travail d'assemblage. J'ai travaillé avec un musicien. Donc il y a un générique, des virgules sonores que j'assemble avec tout ça. Il y a donc des poésies. Il peut y avoir des extraits de films ou d'archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, hein, d'archives d'émissions télé. Voilà, c'est comme une sorte de patchwork.
Ouais.
Et après, c'est vraiment un boulot d'assemblage, en fait, et de tissage de ces sons.
Très bien. Ça sort toutes les deux semaines ?
Ça sort toutes les deux semaines, ouais.
Ouais. Et vous avez de l'avance sur la sortie ou c'est toutes les deux semaines course pour sortir l'épisode ?
Ouais, j'ai pris de l'avance parce qu'en vrai, le podcast ne... Enfin, c'est un travail que je fais sans être rémunéré. Hein. Il y a énormément, il faut savoir qu'il y a très peu de podcasteurs qui gagnent de l'argent avec les podcasts, que ceux qui gagnent de l'argent n'en vivent pas. Ouais. Donc, en tout état de cause, moi, j'ai un métier qui me fait vivre. Du coup, le podcast, c'est une activité annexe pour moi. Donc, effectivement, j'ai pris de l'avance pour pouvoir assurer le rythme d'un épisode tous les 15 jours, ce qui n'est pas rien. Ouais. Parce que c'est un gros job.
Pour respecter une régularité, effectivement, j'imagine que c'est beaucoup de travail. On disait qu'il y a des histoires attendrissantes, touchantes, etc. Il y a aussi des histoires grinçantes. En tout cas, des personnages qui... on ne sait pas comment les aborder. Moi, j'ai trouvé, c'est ce qu'on se disait avant d'ouvrir les micros. Il y a une histoire en particulier qui m'a un peu surpris. Je sais pas ce qu'on peut en dire sans trop divulgâcher.
Ouais, sans trop spoiler. C'est l'histoire de Jean-Luc. Oui, c'est déjà un personnage en lui-même très très étonnant. Quelqu'un qui est, je crois qu'on peut dire totalement en dehors des clous. Qui a jamais travaillé, qui a 9 enfants de, je crois, 5 femmes différentes. Qui a un personnage très étonnant et qui de but en blanc, je peux le dire parce que c'est ce que je dis dans le texte de présentation du podcast, a accepté de s'occuper d'une femme de 85 ans qui avait la maladie d'Alzheimer. Ça a duré 2 ans et demi. Et pendant 2 ans et demi, ils ont eu une relation totalement divergente de ce qu'on peut imaginer qui se passe entre un soignant, qu'il n'est pas, parce qu'il n'est pas soignant, ouais. C'est pas du tout un spécialiste de ce truc-là, malade d'Alzheimer.
Il s'est improvisé soignant en plus
Il se définit pas du tout comme un soignant, ouais. Hein, il se définit comme un être humain qui a décidé d'aider un autre être humain,
ouais.
Mais avec sa personnalité qui est gourmande, délirante, sans frontières, sans limites, sans barrières, voilà.
Bon, le mieux.
Et avec énormément de générosité, mais effectivement, on peut aussi considérer que c'est avec une générosité qui va peut-être un peu au-delà du raisonnable. Mais voilà, je laisse l'auditeur décider.
Et se faire son avis, exactement. Comment est-ce qu'on les écoute, ces podcasts, du coup, de chez les Fêlés?
Alors le podcast, faut peut-être le préciser parce que je suis pas sûre que tous les auditeurs sachent, c'est comme une émission de radio,
ouais.
Sauf que ça s'écoute exclusivement sur internet et donc on peut l'écouter quand on veut, à l'heure qu'on veut, comme on veut, dans sa voiture, sur son ordinateur, au casque, sur son téléphone, etc. Et ça s'écoute sur des plateformes d'écoute,
ouais.
Donc vous pouvez trouver de chez les Fêlés sur Spotify, sur Deezer, mais aussi sur les plateformes spécialisées, Apple Podcast, Google Podcast, puis il y a des tonnes d'applications,
il y en a plein qui existent,
voilà.
Le plus simple, pour moi le plus simple, c'est d'aller sur votre page Facebook,
c'est de taper de chez les Fêlés podcast sur Google, ouais. Ou d'aller sur Facebook et de taper de chez les Fêlés, vous tomberez aussi sur la page du podcast.
Et il y a un lien pour retrouver toutes les plateformes possibles pour écouter.
Voilà, exactement. Ouais.
Voilà, et puis si on a une plateforme préférée pour écouter des podcasts, c'est tout simple, on tape de chez les Fêlés, on vous retrouve rapidement.
Exactement.
Très bien. Et un petit trailer du prochain épisode, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ?
Eh bien, le prochain épisode, j'ai pas eu à aller très loin parce que c'est quelqu'un qui habite dans le Beaujolais Vert,
ouais.
Que j'ai rencontré parce qu'un week-end où j'ai loué une chambre d'hôte. Et voilà, c'est une femme, typiquement une femme qui m'a raconté, elle est venue, on était en train de prendre un petit déjeuner, elle est venue, elle m'a dit, parce que ça, voilà, ça collait avec la conversation qu'on avait, j'avais un enfant, un fils, il est mort, et c'est la forêt qui m'a guérie de sa perte. Et voilà, elle avait semé ça dans mon oreille, et quand j'ai lancé ce podcast, j'ai repris contact avec elle. Voilà, donc c'est l'histoire de la semaine prochaine, ça.
Très bien. Eh ben, j'ai hâte de découvrir ça. Merci beaucoup. À très bientôt.
À bientôt. Merci.
Ensemble sur Calade.
Allez, les Fêlés, moi j'ai trouvé que c'était le contraire des gens raisonnables, ce que nous chante Mickey 3D tout de suite. Voici les gens raisonnables.
Raisonnables se lèvent toujours à l'heure, ils n'oublient jamais leur cartable, font bien gaffe de rien abîmer, ils mettent toujours une ou deux pièces de plus dans les horodateurs, alors ça énerve les autres, qui les traite souvent de PD. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables ne font jamais comme bon leur semble. Ils ne traitent personne de minable, ne s'agacent pas dans leur voiture. Et si jamais quelqu'un les blâme, même s'ils savent qu'ils ont raison, pour ne pas risquer l'incartade, ils s'excusent ou bien ils s'en vont. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Se prennent la tête des mauvais jours et des années insupportables passées à se faire oublier. Ils font toujours tout dans les règles et quand les règles sont injustes, ils frappent du poing sur la table et se rassoient pour se calmer. Les gens raisonnables n'ont pas la belle vie. Ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Les gens raisonnables ont plein de doutes, trop de soucis, donc moins de souvenirs dans leur sac à la fin de leur vie.
Je veux le lac, dis-moi, tu peux,
C'était Vendredi sur mer qu'on vient d'entendre avec le lac.
Oh, vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes.
Ensemble sur Calade. Ah,
c'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Et il est l'heure de parler alimentation et santé. Et pour ça, on retrouve tout de suite Charline Simian. Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Mathieu.
Et aujourd'hui, on va parler d'activité physique et non pas vraiment d'alimentation et de santé, mais peut-être que c'est lié.
Tout à fait, c'est tout à fait lié. L'augmentation de l'activité peut permettre de se faire plus plaisir en mangeant sans y faire vraiment plus attention. Alors ça, c'est le petit tips, en sachant que bien sûr, on mange pour bouger et on ne bouge pas pour s'autoriser à manger. Mais du coup, pour mes patients, pour les gens qui souhaiteraient faire attention, effectivement, augmenter la dépense d'énergie, mathématiquement, ça a quand même une tendance à piocher un peu dans la réserve. Je voulais, après le petit tour qu'on a fait du PNNS, le Plan National Nutrition Santé, m'axer justement un petit peu plus sur le mouvement, parce qu'avec ce beau temps, ça me donne envie d'aller me promener.
Effectivement, oui, je comprends.
Et refaire un petit point avec vous sur l'activité physique selon les instances, donc l'Organisation Mondiale de la Santé qui a défini ça très précisément, comme tout mouvement corporel produit par des muscles squelettiques, donc les muscles qui font qu'on est musclé et pas ceux de mon intestin ou de mon corps, donc ceux qu'on voit, et qui requièrent une augmentation de la dépense d'énergie. Globalement, ça veut dire que dès que je bouge, finalement, je fais de l'activité physique. Mathieu, je vous vois déjà vous lever derrière votre micro et animé debout. C'est une excellente idée, par exemple, ouais. Pour augmenter l'activité physique au quotidien sans forcément partir courir le soir quand on a un travail qui est sédentaire. La problématique aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a une population qui se sédentarise de plus en plus. Et la sédentarité, on se dit oui, bah, je ne bouge pas beaucoup, ce n'est pas bien grave. Sauf qu'en réalité, c'est quand même un des principaux facteurs de risque de mortalité. Alors encore selon l'OMS, c'est dit par maladie non transmissible. C'est-à-dire que le sida est une maladie transmissible, mais le diabète non. Et en fait, on a plus de risques, on augmente ces facteurs de risque de développer du diabète ou une maladie cardiovasculaire plus on est sédentaire. Ce risque de mortalité, il est quand même majoré de 20 à 30%, ce qui fait un tiers de chance de mourir en plus, plus rapidement du fait qu'on est sédentaire. Levez-vous,
c'est
tournez
bon, je me
un
debout.
Petit peu autour du micro, je vous en prie.
Il n'y a pas de souci.
Les recommandations, elles ont été vraiment cadrées par l'OMS. Et par exemple, on se rend compte qu'un enfant qui va être en âge de rentrer à l'école, donc 3-4 ans, c'est 180 minutes par jour d'activité. Alors, quand on parle d'activité physique, selon l'OMS, c'est de l'activité modérée à soutenue, c'est-à-dire des choses qui vont être plutôt d'endurance. Ça veut dire que c'est 180 minutes plutôt réparties sur la journée, mais avec quand même des moments d'activité un peu plus soutenue. C'est pour ça que je vous demande de courir derrière votre micro et pas de rester juste statique derrière.
D'accord. Ça,
pour
ça
les
plus
enfants
compliqué.
De 3 à 4 ans, on a quand même l'idée de ne pas rester assis trop longtemps et de ne pas être immobile plus d'une heure d'affilée. Ça veut dire que quand on part faire une promenade en poussette, eh bien, l'enfant ne devrait pas être en poussette plus d'une heure cumulée. Donc ça fait vraiment beaucoup de mouvements par rapport à ce qu'on imagine. Pour les 5-17 ans, donc nos enfants un peu plus grands, on va dire du CP à adolescents avant le bac, on va dire, c'est 60 minutes par jour d'activité modérée à soutenue. J'aime autant vous dire qu'il faut quand même courir un certain temps après le bus en espérant ne pas le rater pour atteindre ça. Je pense qu'on en est quand même malheureusement très loin aujourd'hui pour un certain nombre d'enfants.
60 minutes
par jour.
Par jour, c'est pas rien. Ouais.
C'est pas rien, surtout que c'est de l'activité modérée à soutenue, donc où on a quand même une petite augmentation du rythme cardiaque. C'est pas juste je rejoins ma salle suivante de cours, par exemple. Et puis, à ça est associée l'idée de faire quand même 3 séances de sport, donc avec une intensité la plus importante, par semaine également. Donc vous voyez qu'on est quand même pour les ados, assez loin du compte, parce que l'éducation physique et sportive qui est proposée, souvent l'intensité, ça dépend de l'intensité qu'ils y mettent, mais on est plutôt à 1 à 2 fois par semaine que vraiment à 3 fois par semaine. D'où l'importance pour ces enfants-là d'avoir une activité, au moins une activité extrascolaire. Attention, je passe aux adultes. Il me semble qu'on fait partie de cette tranche d'âge-là, vous et moi. Ouais. Entre 18 et 64 ans, ça fait une belle fourchette. Et donc là, on est plutôt sur 150 à 300 minutes par semaine, soit 2h30 à 5h d'activité, encore une fois, modérée à soutenue, d'endurance. Ouais. 2h30 à 5h par semaine, je vous le rappelle parce que ça pique un peu hein, quand on l'entend la première fois, avec au moins 2 à 3 fois par semaine de renforcement, donc vraiment encore cette idée de faire du sport. Alors on ne va pas aller faire du crossfit 2 à 3 fois par semaine si on n'aime pas ça, mais globalement, mon idée de cette chronique, c'était de vous rappeler qu'on est tous beaucoup trop sédentaires dans la vraie vie, ouais, quoi. Vous avez compris un peu la teneur. Pour les 65 ans et plus, les personnes qui commencent à rentrer dans un âge un peu plus avancé, on est plutôt plus sur du renfort parce que ça sert plus vraiment à grand chose de faire du renforcement musculaire dans l'idée d'augmenter la masse musculaire qui, je vous le rappelle, commence à diminuer aux alentours de 35 ans. Ouais, j'ai pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais j'ai envie d'aller me promener quand même, voyez. Et donc, on va être plutôt sur des exercices qui vont renforcer l'équilibre pour prévenir les chutes en réalité, donc plutôt de la proprioception, des choses yeux un peu fermés, des choses comme ça, trois fois par semaine au moins. Et les recommandations d'activité physique qui restent les mêmes que pour les adultes et les plus jeunes, c'est-à-dire 2h30 à 5h par semaine, en sachant que oui, si on est retraité, on a plus le temps de le faire, mais est-ce qu'on a vraiment encore la motivation quand on ne l'a pas fait de toute sa vie? Je ne suis pas certaine.
Et ouais, c'est quelque chose qui s'entretient, l'habitude de faire du sport et des activités.
Oui, et puis ça dépend aussi dans quel environnement on est né, parce que finalement, quand on a autour de soi des gens qui sont plutôt dans la sédentarité, on n'a pas les mêmes chances que quelqu'un qui est né dans une famille naturellement sportive. Il faut quand même pas sous-estimer ça.
Bien sûr. Bon, il y a du boulot. Merci beaucoup, Charline.
Et bouger.
Eh bien, on va bouger. Merci beaucoup, à très bientôt.
Ensemble sur Calade.
MC Solar nous chante Bouge de là. Sur Calade qui nous chante Bouge de là.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessif.
Le prof Patrick.
Et oui, il est l'heure de retrouver le prof Patrick tout de suite qui avait commencé une nouvelle série la semaine dernière. Bonjour.
C'est bien ça. Salut Mathieu, salut les auditeurs. On a commencé une série qui s'appelle Steve Jobs n'a pas changé le monde. Bon, il n'y aura que deux parties. Hein. C'est la partie 2, mais ça s'arrête là.
Très bien. Bon, allons-y pour cette partie 2 alors.
Eh oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déconstruit le mythe de l'entrepreneur grâce à un livre écrit par Anthony Galuzzo, un livre qui s'appelle « Le mythe de l'entrepreneur ». Anthony Galuzzo, maître de conférence à l'université de Saint-Étienne, un voisin, donc, et c'est ce livre qui nous sert de fil rouge. Donc, on a expliqué dans la première partie que Steve Jobs n'avait pas changé le monde, contrairement aux affirmations de ses fans, qu'il s'était contenté d'accompagner le changement du monde. Alors, aux premières loges, c'est un fait, hein, d'accord ? Parce que non, il ne s'agit pas de faire du Steve Jobs bashing ou de jouer les haters, hein, je laisse ça aux réseaux sociaux. Il s'agit juste, dans cette chronique, de regarder le monde dans sa réelle complexité, dans sa richesse, qui est fondée sur le collectif, sans se laisser endormir par des comptes à dormir debout.
Voilà. Ouais.
Donc on a détaillé semaine dernière quatre points importants. On a dit 1, Steve Jobs n'a pas inventé l'idée de l'ordinateur personnel. Cette idée existait déjà, était en train d'apparaître sans lui, dans les années 70. Deuxième point, Steve Jobs n'est pas un génial entrepreneur qui s'est fait tout seul. Déjà, il avait un associé encore plus génial que lui sur le plan technologique, c'est Steve Wozniak. Il avait aussi un parrain, capital risqueur, qui lui a permis de démarrer l'entreprise, c'est Mark Markula. Et enfin, il a eu l'apport intellectuel d'un club qui s'appelait le Homebrew Computer Club, qui rassemblait quelques petits fans d'informatique. Et il s'est beaucoup, lui et Wozniak, se sont beaucoup appropriés les idées de ce Computer Club. Enfin, troisième point, il a eu aussi la force de frappe incomparable des salariés de la Silicon Valley qui ont bien voulu vivre l'aventure avec lui. Et quatrième point, cette incroyable Silicon Valley n'a existé que parce qu'elle a été nourrie, choyée, couvée par les milliards déversés pendant 4 décennies par le ministère de la Défense, donc par l'État américain. Voilà, on en est là, Mathieu. On a dit l'essentiel, mais en fait, on va rajouter une ou deux petites choses qui sont intéressantes. La première chose qu'on va rajouter, c'est ça va nous permettre de rendre hommage à la qualité et la subtilité de l'analyse qu'a fait Anthony Galuzzo dans son livre « Le mythe de l'entrepreneur ». Puisqu'en fait, on va pouvoir répondre principalement à une question, ok d'accord, mais pourquoi c'est Steve Jobs et Steve Wozniak précisément qui ont été ces entrepreneurs géniaux et pas d'autres, d'accord ? Alors pour répondre, on va faire un peu de sociologie. Les générations aux États-Unis qui sont nées dans les années 20 et les années 30 du 20e siècle n'ont pas trop rigolé, hein, se sont tapées quand même la terrible crise des années 30 et ensuite la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Par contre, les générations qui sont nées dans les années 40 et 50, ça a été des générations dorées. En fait, puisqu'elles ont bénéficié d'une économie qui est devenue dominante dans le monde et d'un État qui réalisait des investissements massifs dans l'appareil productif. Elles ont profité, ces générations, de salaires plus confortables et de positions sociales plus favorables, même que les cohortes suivantes qui sont nées dans les années 60 et 70. D'accord ? Mais Anthony Galuzzo va encore affiner cette analyse, puisque là on est sur des générations, car années 40 et 50 ça fait beaucoup, et voici ce qu'il a découvert. Une grande partie des entrepreneurs qui se sont enrichis en créant une entreprise dans le domaine de l'informatique personnelle, dans ces années-là, Bill Gates, Paul Allen, Steve Ballmer, Eric Schmidt, Bill Joy et Steve Jobs et Wozniak, eh bien ils sont tous nés, devine quoi, entre 1953 et 1956, dans la Silicon Valley. Donc des années précises et un lieu précis, du timing parfait. Je vais m'expliquer. Tous ne venaient pas de milieux riches, mais ils venaient de milieux de classe moyenne aisée. Et ils ont bénéficié de la transmission d'un capital culturel très riche qui les a poussés dans l'aventure entrepreneuriale. On va revenir sur Steve Jobs pour vraiment illustrer ça. Steve Jobs, il aperçoit ses premiers ordinateurs lorsqu'il visite la NASA et Hewlett-Packard, lors de visites scolaires. Dans les zones résidentielles où il habite, se concentrent des techniciens de très haut niveau, des ingénieurs Hewlett-Packard, des experts en électronique, des ingénieurs Lockheed, etc. Steve Jobs, il a un voisin de sa famille, qui est un ingénieur chez HP, qui s'appelle Larry Lang, et c'est ce voisin qui va l'initier à la radio amateur et aux appareils électroniques à assembler soi-même. Larry Lang va faire entrer Steve Jobs dans le club des explorateurs HP, où les enfants des salariés d'HP reçoivent des cours d'électronique par les employés eux-mêmes d'HP, Hewlett-Packard. Steve Jobs va assister au cours de l'ancien pilote de l'US Navy, John McCollum. Pardon. Steve Jobs et Steve Wozniak ont donc reçu un double apprentissage formel et informel, entièrement tourné sur l'électronique et l'informatique. Ouais. Les deux amis disposaient en permanence de composants électroniques, de câbles, de tout un tas de petits joujoux, entre guillemets. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et avec ça, ils s'amusaient. Ils bricolaient des radios, des talkie-walkies, des antennes, etc. Des magasins d'électronique importants étaient présents près de chez eux. Steve Jobs a travaillé dans un magasin qui s'appelle Altec, une chaîne, durant son adolescence, qui lui a permis de parfaire sa connaissance des différents appareils et instruments électroniques. Alors, revenons à cette histoire de timing parfait pour vraiment être précis. Steve Jobs et Steve Wozniak ont eu 20 ans pile au milieu des années 70. Tout comme Bill Gates, tout comme Paul Allen, tout comme Steve Ballmer, les trois qui ont fondé Microsoft. Leurs aînés les plus proches, qui étaient nés entre 50 et 53, eh bien, ils étaient déjà devenus ingénieurs informatiques à ce moment-là. Ils étaient déjà insérés professionnellement, ils avaient une carrière confortable. Ils étaient donc moins enclins à prendre le risque de se lancer dans la création d'entreprises. Leurs cadets les plus proches, ceux qui sont nés après 1956, eh bien, qui sont aussi passionnés d'informatique comme eux, hein, bien sûr, ils sont trop jeunes au milieu des années 70. Quand ils vont arriver au bon âge, à 20 ans, eh bien, les premières entreprises dominantes de ce secteur ont déjà émergé. C'est donc un timing hyper précis en quelque sorte. Le timing parfait, c'est celui des générations nées entre 1953 et 1956 qui ont grandi dans la Silicon Valley, de milieux aisés mais pas de milieux riches. Parce que les enfants des milieux riches, ils ne créent pas d'entreprise, ils reprennent l'entreprise de papa.
Et ouais.
Eh mais bien sûr. Ils ont bénéficié de cet environnement exceptionnel et ils arrivent à la vingtaine, puis le moment où se constitue une nouvelle industrie et où il y a une opportunité, un peu comme le gagnant du ticket du loto, de créer des entreprises dans ce domaine. Le champ est ouvert. Voilà Mathieu, on pourrait rajouter beaucoup de choses car le livre d'Anthony Galuzzo est plein de surprises, c'est pour ça que je vous encourage à le lire, d'accord ? Disons juste pour compléter que dans ce storytelling de l'entrepreneur, eh bien, on peut tout à fait rajouter un méchant. Eh oui, un méchant, comme dans un bon vieux film du Marvel Cinematic Universe. Par exemple, le méchant de Steve Jobs, c'est Bill Gates.
Ah ouais.
Parce que c'est la figure du capitaliste contre l'entrepreneur. D'accord ? Créer un méchant, c'est toujours bien pour détourner sur le méchant les critiques qu'on voudrait porter au système capitaliste. Et puis, ça parle inconsciemment aux gens. Hein. Je fais une référence à l'analyse transactionnelle, eh bien, y a une notion qu'on appelle le triangle dramatique qui oppose toujours un persécuteur, dans ce cas-là, ce sera Bill Gates, une victime, c'est vous et moi, et un sauveur, Steve Jobs. Donc, ça parle à l'inconscient des gens, le méchant. On pourrait citer aussi l'incontournable Joseph Campbell, qui a écrit un livre célébrissime, Le héros aux mille et un visages, en 1949, et qui a détaillé le premier, la structure des récits héroïques.
Oui.
C'est très connu, hein, dans les jeux, partout c'est connu ça. Les origines obscures, l'initiation, l'appel de l'aventure, la gloire précoce, la trahison, la chute, l'exil, le retour en gloire, la mort prématurée, vous avez le timing complet de la vie de Steve Jobs.
Ah ouais, ça marche aussi pour
moi. Ah ouais, ça marche parfaitement. On aurait pu aussi décortiquer la deuxième période de Steve Jobs, celle des années 90-2000, qui a fait sa légende. Et on aurait montré, par exemple, que l'idée de l'iPod, l'idée géniale de l'iPod, eh bien, elle vient d'un ingénieur britannique, Ken Kramer, qui l'a conçue en 1979. Et qui a attaqué Apple en 2000 pour copie illégale, en justice. Eh ouais. Mais en fait, je voudrais plutôt terminer en revenant sur ce que j'ai dit au début de ma première chronique. Les belles histoires édifiantes à la Steve Jobs ont une fonction politique, celle de nous faire avancer tous ensemble sans trop faire de vagues, sans remettre en cause le pouvoir et ceux qui le détiennent.
Ouais.
Pour cela, et parce que c'est un mythe américain d'abord, on va revenir aux États-Unis des fondateurs. Les fondateurs, c'est le 17e, 18e siècle. C'est un pays de petits propriétaires terriens, d'artisans, de boutiquiers, qui poursuivaient un idéal d'autonomie et d'indépendance. Sauf que le 19e siècle passe par là et transforme complètement ce pays. Ça devient, avec la révolution industrielle, un pays qui est une puissance industrielle où quelques entreprises surpuissantes exercent un contrôle énorme sur une grande masse de travailleurs prolétarisés. Comment on fait passer la pilule aux Américains de ce changement profond, hein, de la nécessaire soumission au nouveau maître? Eh bien, on utilise le mythe de l'entrepreneur. On va faire de ces entrepreneurs les héritiers des valeurs de travail incessant, de volonté, de discipline, de frugalité des premiers fondateurs. On va dire c'est eux les héritiers. Et on monte donc au pinacle des nouvelles légendes. Les premiers représentants du mythe de l'entrepreneur, ça va être Carnegie, Andrew Carnegie, ça va être Thomas Edison, George Westinghouse, etc. Et c'est... Les entrepreneurs, ces nouvelles stars en quelque sorte, vont être utiles pour contrer la montée en puissance des mouvements anarchistes et socialistes qui agitent le monde ouvrier fortement aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Donc on a ces entrepreneurs, on a en face la figure du mauvais capitaliste qui est déjà là, JP Morgan, c'est la finance, et ça permet de tenir tranquille les moutons avec l'aide de la presse américaine qui est bien sûr contrôlée par ces mêmes entrepreneurs milliardaires. Voilà. J'en ai terminé, Mathieu. Steve Jobs est un entrepreneur, c'est vrai, mais s'il n'avait pas existé, d'autres l'auraient remplacé et le monde aurait été strictement le même. Steve Jobs n'a pas changé le monde. Le monde est d'abord une construction collective où des hommes émergent parfois, mais où personne n'est irremplaçable. J'ai fini, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick. À très bientôt, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ensemble sur Calade.
Allez, on écoute Bertrand Belin pour se dire au revoir. Quelques notes de son morceau Que dalle tout. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain, non pas à 12h12 pour le direct d'Ensemble sur Calade, mais à 18h30 pour le bal littéraire à la médiathèque de Villefranche. On sera en direct à l'antenne pour de la musique, de la poésie, de la littérature. Passez une très bonne journée. À tout bientôt. Ciao, ciao.
Desquels j'ai hérité de tout que dalle.